Ted Gagnon pour le podcast Tout Seul, c'est le numéro 69, de retour après une assez longue pause de Noël. Je vous raconterai d'ailleurs tout ce qui s'est passé pendant ce temps-là. À la base, je pensais recommencer il y a 2 semaines et assez fidèle à ce qui se passe depuis que j'ai commencé ce podcast. Il y a eu plein de choses qui se sont mises et que je n'avais absolument pas le pouvoir de gérer. Mais là, comme on recommence, j'ai envie directement de tomber dans le vif du sujet. Je vais déjà vous expliquer un tout petit peu ce qui va se passer. J'ai changé 2-3 trucs. J'ai dû m'adapter donc voilà, à la nouvelle réalité. Maintenant, il va y avoir un podcast par semaine. Pour les 5 prochains numéros, ça va être disponible pour tout le monde. Et à partir du 6e numéro, à partir de maintenant, ça va être exclusivement pour les gens qui sont abonnés au Patreon. Donc, de temps en temps, je vais mettre un numéro qui va être gratuit, mais dans l'absolu, ça va être un truc. Donc, pour les abonnés du Patreon, parce que c'est le temps dont je dispose. Avec le peu de temps dont je dispose, j'ai envie de faire des choses pour ceux qui encouragent le plus. Et puis, j'ai besoin de pognon, comme n'importe qui. C'est pas la période la plus facile pour les humoristes et tout ce qu'on peut faire pour avoir un peu de sous, on le fait. On nous a demandé de nous réinventer, je me réinvente. Voilà, je fais la même chose maintenant, je demande la thune pour... Et by the way, si vous écoutez ça genre comme ça de temps en temps et que vous trouvez pas que ça vaille la peine de payer, aucun problème évidemment. Puis sinon, ça commence à l'équivalent de genre 1$ par épisode, là, un truc comme ça. Et surtout, si vous abonnez et que vous n'étiez pas abonné avant, ça commence en débloquant genre, je sais pas, 10-15 épisodes, je sais pas exactement le nombre. Et donc voilà, et je ne devrais pas vous dire ça, mais il y a un bête truc aussi, vous abonnez pour 1 mois, vous chopez 20 épisodes, et puis après ça, vous vous désabonnez. Moi, je n'ai pas envie de prendre des sous à des gens qui n'en ont pas, si vous n'avez pas l'attitude. Et puis même, je l'ai déjà fait pour certaines personnes. Si vous suivez ce que je fais, vous aimez beaucoup ce que je fais, vous avez envie de l'écouter, vous n'avez pas de sous, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Je ne vais pas vous mentir, je ne réponds pas à tous les messages, j'essaie, des fois j'en loupe. Mais s'il y a un truc, ce sujet-là, ça m'intéresse, j'ai pas de sous, est-ce que tu peux? Oui, on est, comme j'aime bien la phrase, on est tous dans la même merde, mais pas dans le même bateau. Donc voilà, moi, mon but, c'est de faire le contenu le plus intéressant possible. Et je considère que ça a une valeur. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me donnez pas de sous, vous êtes d'accord avec moi. You make it rain sur mon sexy body. Et puis après ça, on essaie d'avoir le plus de plaisir consentant ensemble. Il y a plusieurs numéros super intéressants, je pense, qui arrivent, avec entre autres une interview de Myriam Leroy pour le prochain numéro. J'ai interviewé avant les fêtes sur le harcèlement, le cyberharcèlement. On parle entre autres de son livre Les yeux rouges et du documentaire qu'elle va sortir prochainement sur le même sujet. Et pour ceux qui savent, forcément, j'ai un affect tout à fait subjectif pour Myriam, qui est la personne qui m'a fait quitter le Canada il y a de cela 8 milliards d'années, plus ou moins. C'était en 2004. Jesus Christ. Ça fait longtemps. Et donc, j'ai toujours suivi ce qu'elle faisait avec, évidemment, grand intérêt. C'est une personne dont j'admire énormément la plupart des qualités. J'aime bien, genre, j'admire la plupart des qualités. Ça laisse un espèce de doute sur « il y a certaines de ces qualités que je déteste. » Ce qui n'est absolument pas le cas. Mais donc, on a fait un entretien super long de 1h20 minutes, peut-être. 1h20 minutes. Et je vais probablement réduire ça à 20-25 minutes pour aller à l'essentiel. Et je vais voir si en bonus, je sors l'intégrale. En gros, si vous me le demandez. Parce que sinon, je ne me fais pas chier à faire du montage. Et à faire du montage différent. Donc voilà. Et aujourd'hui, je dois clôturer avec le numéro 69. Je veux dire, c'est ce que j'avais dit que j'allais faire. Clôturer la série sur l'humour. C'est, comme vous le savez, un de mes sujets de prédilection, mon sujet préféré, un des rares sujets que je maîtrise, pour être vraiment honnête. La plupart du temps, quand je cause, c'est voici mon impression de néophyte, de personne qui s'y intéresse un tout petit peu. Et j'essaie de rendre ça le plus intéressant possible. La comédie, c'est un sujet qui me passionne et pour le coup, pour lequel j'ai un peu de connaissances. Et aujourd'hui, le but de ce podcast, c'était de parler de ma vision pour la suite de la comédie. Je vous avais parlé éventuellement, il y a quelque temps, de ce que j'avais écrit, il me semble, c'est en 2013, sur l'avenir de la comédie. Et plusieurs années plus tard, je me suis rassis, j'ai réécrit un texte avant la période de Noël, pour parler de comment je voyais l'avenir de la comédie, donc à partir de 2021. Et je crois que ce qui était super intéressant à discuter, déjà, petite alerte avant de démarrer, ça va principalement être de stand-up dont je vais parler, parce que c'est la forme d'humour dont je maîtrise mieux les codes. Mais surtout, voilà, voici les, pour moi les 3-4 aspects à surveiller, que vous soyez genre humoriste, apprenti humoriste, vous voulez faire ça comme humour, vous êtes fan d'humour, vous êtes humoriste établi, je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent aussi parce que bah, ce sont mes copains. N'hésitez pas à partager vos idées. J'ai écrit un texte là-dessus que j'ai publié donc, sur ma page Facebook en décembre. Il fallait voir cette version-là. Et là, c'est un peu la version de ce que je retiens, de ce qui me semble important, avec 2 mois, forcément, 1 mois et demi, 2 mois d'informations en plus sur ce qui va suivre. Donc, pour moi, les 3-4 points importants pour la suite en humour et qui vont être cruciaux pour tous ceux qui veulent en faire. Un, le retour à la normale, entre guillemets, le retour des spectacles en salle va se faire dans une logique de comédie d'après-guerre. On va y revenir. Deuxièmement, de la même façon dont on ne peut pas prédire les mutations d'un virus, pour utiliser donc voilà, une métaphore assez à la mode, on ne peut pas prévoir, les mutations du stand-up, mais elles vont être nombreuses, rapides, et celle qui va être la plus efficace va être copiée à une vitesse folle. Ironiquement, je crois qu'on n'aura jamais autant eu besoin de fun et il n'y aura jamais eu autant de sujets sérieux mainstream à la fois. Et numéro 4, je pense qu'on peut combiner le tout de façon beaucoup plus simple qu'il n'y apparaît au premier abord. Voilà, donc point 1, la comédie va en être une d'après-guerre. Vous pensez vraiment qu'après avoir été confiné 1 an et demi, parce que soyons sérieux, à part quand la population sera vaccinée, il n'y aura pas vraiment de reprise du spectacle. Il va y avoir quelques petits soubresauts à gauche et à droite, quelques petits relâchements, peut-être quelques imprudences, mais au final, on sait qu'avant septembre, si tout se passe bien, peut-être l'été, au pire, décembre, janvier, dans un an, il n'y aura pas de retour, entre guillemets, à la normale. Quand ça va arriver, ça va signifier quoi? 1 an et demi au minimum, au mieux, de confinement, ça va être une logique d'après-guerre. Tout le monde va avoir envie de s'amuser. Tout le monde va avoir envie d'aller voir un spectacle pour être collé, de sentir de la peau autour de soi. Tout ce que tu as détesté pendant des années, il y en a une chier de personnes qui vont vouloir le ressentir. Rigoler en entendant d'autres, rire en même temps, boire un peu trop, draguer, flirter un peu trop peut-être, mais avoir du fun. Et le problème, c'est que tous les gens qui écrivent la comédie que vous allez voir quand ça va reprendre, ce sont des gens qui écrivent la comédie au moment le plus difficile de leur carrière où plusieurs humoristes savent qu'ils doivent prendre peut-être en ce moment un autre job pour survivre, d'autres dont les économies ont complètement fondu. La quantité de gens, les humoristes font ce métier entre autres parce qu'ils ont besoin de voir des gens et là ils sont privés de leur source d'oxygène littéralement, ils étouffent. Et donc au moment où ils sont peut-être le plus déprimés, au moment où la santé mentale est peut-être le plus mise à mal, et donc, le réflexe, c'est d'écrire sur cette douleur-là. On écrit toujours sur la douleur en priorité, normalement. Et je pense que c'est un piège. Je crois que tout le monde doit commencer à envisager, comme quand tu écris un film de Noël en juin, comme quand tu tournes un film de Saint-Valentin en septembre, on doit, nous les humoristes, se mettre à la place du public au moment où il va venir nous écouter plus tard. La logique festive d'après-guerre. On va vouloir avoir du fun et ça va être important pour les humoristes de trouver une façon d'exister face aux autres formes d'art, aux autres formes de divertissement en dehors de la maison. Je pense entre autres aux concerts. Je veux dire, les concerts ont un avantage, on a un nombre d'avantages exceptionnels sur les humoristes. Ça se passe debout, tu fais du bruit, tu cries, tu danses, tu es capable de chanter parce que tu connais à l'avance ce qui va arriver et tu es content d'entendre ce que tu connais. Quand tu vas voir un humoriste, tu veux de la nouveauté, tu vas voir un chanteur, une chanteuse, tu veux ce que tu connais déjà. Donc, le côté festif n'est pas le même. Et c'est ce qui m'amène en même temps à mon point 2. Je crois qu'il va falloir écrire du festif et je crois qu'on va bénéficier d'une chose, par contre. Tu as plein d'humoristes qui auraient commencé leur carrière il y a un an et demi, au moment de la reprise. Plein d'humoristes dont leur carrière a explosé pendant le confinement et qui n'ont pas pu en profiter, qui vont ressortir fort, mais plein de cerveaux comiques qui ont réfléchi à la forme. Comment est-ce qu'on va divertir les gens? Moi, c'est mon rêve depuis longtemps. J'ai envie de créer un festival. Je veux que tu vives l'humour comme tu vis la musique. Je veux que tu ailles dans une tente sur une plaine, qu'il y ait 25 shows d'humour une journée. Tu te bourres la gueule, tu dors, et le lendemain matin, paf, t'es reparti pour un autre 30, 35, 40 shows. Il y a suffisamment d'humoristes pour pouvoir le faire. Je veux que tu picoles en choisissant lequel des deux, trois humoristes tu vas aller voir en fonction des tentes, en fonction des atmosphères. Moi, c'est ma vision à moi. Mais il y a plein de gens qui, en ce moment, sont en train de développer leur vision à eux. Des spectacles sur Zoom, il y en a plein qui l'ont fait. Aller dans une salle avec personne et des faux rires. J'ai vu Pierre-Yves Roy de Marais le faire récemment. Ça marchait super bien. Il y en a plein. Et il ne faut pas oublier une chose, le stand-up est un accident. La paternité du stand-up, on peut la prêter à plusieurs personnes. Disons qu'on la prête à Lenny Bruce pour cet exercice. La raison pour laquelle Lenny Bruce a inventé le stand-up, si on admet qu'il a inventé le stand-up, à l'époque, il parlait dans des cabarets, dans des casinos, dans des shows burlesques, en deux prestations burlesques. Et à un moment, ça l'a saoulé. Il a insulté les gens en disant ce qu'il pensait vraiment en étant brutalement honnête. Et ça a fait rigoler. Il était lui-même surpris. Il a continué dans cette voie-là. Mais cette mutation de la comédie est un accident. Et là, t'as des centaines d'humoristes qui vont arriver avec leurs propres accidents à eux, leurs tentatives, le fruit de leurs réflexions. Mais on sait comment ça fonctionne. La première personne qui va trouver une formule qui marche va être copiée, mais dans la seconde. Et je crois qu'il va falloir une très grande adaptabilité des humoristes pour être capable d'aller à l'endroit où les choses fonctionnent bien. Moi, je souhaite que ça demeure dans la logique festive. Je dis, je pense vraiment que si on se met à envisager l'humour comme étant le stand-up, comme étant autre chose que le petit cousin du théâtre, du monologuiste, et qu'on le voit comme étant vraiment un art festif, on peut arriver à quelque chose. Surtout qu'on a un avantage qu'on n'avait pas eu pendant longtemps sur les musiciens. Pas un avantage sur les musiciens, mais on a rattrapé un retard sur les musiciens. Eux, ils ont eu la radio longtemps. Tu pouvais entendre une chanson pendant 3 mois jusqu'à ce qu'elle rentre dans ta tête, jusqu'à ce que tu aies envie d'acheter une place de spectacle. Nous, tu fais une blague une fois, elle est morte. C'est comme une allumette, elle ne fonctionne plus. Mais avec les réseaux sociaux, avec principalement TikTok en ce moment ou Instagram, tu peux distiller des petits morceaux, des petits extraits. Tu peux faire l'équivalent du stand-up. Les gens sont habitués à une espèce de forme de stand-up virtuel qui n'était pas une forme à laquelle on était habitué avant. Et on peut utiliser ça pour envoyer nos singles. Si moi, j'ai un compte TikTok ou Instagram où j'ai 20 extraits de 1 minute qui ont été partagés plein de fois à un point où j'ai 15 millions de views, eh bien, je peux aller faire un spectacle d'1h15, utiliser une dizaine de ces minutes sur les 20, comme un musicien utiliserait ses singles. Ça n'empêche pas le plaisir d'avoir la nouveauté. Ça ajoute la touche de familiarité. Et les diffuseurs qu'on n'avait pas, parce que ça ne se prêtait pas au format radio ce qu'on fait, on l'a maintenant avec les réseaux sociaux. Et je crois que c'est important de sauter sur cette occasion-là comme vitrine. Troisième point, on veut faire du festif, il n'y a jamais eu autant de sujets sérieux qui soient mainstream. Et quand je dis que c'est mainstream, donc grand public, ce qui m'a le plus frappé, je crois que c'est cet été, cet automne, Laurence Ferrari, présentatrice, voilà, journaliste, reprend, de mémoire, c'est un député qui utilise le terme hystérique pour parler d'une femme. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu parles d'hystérie, ça a un lien avec l'utérus, parce qu'on croyait que les femmes étaient folles, c'est à cause de leur utérus. Pour ça, quand tu te fais t'as une ablation de l'utérus, c'est une... Mon Dieu, je sais que c'est hystérectomie. Je vais le taper. Hystérectomie. Voilà, ça aurait été vraiment le comble de faire une erreur là-dessus. Et je vous présente d'ailleurs mes excuses. Elle le reprend en live sur un plateau de télévision complètement grand public. Jamais tu aurais pu imaginer, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, une femme qui reprend un homme sur un thème où il n'y a pas 10% de la population qui sait que c'est sexiste, misogyne et fort toxique au final. Le mouvement Black Lives Matter s'est retrouvé à être finalement assez grand public. Le mouvement MeToo, le mouvement MeToo inceste, entre autres, avec le livre de Kouchner. Tous ces sujets-là font en sorte qu'aujourd'hui, si tu es humoriste, tu peux, point d'interrogation, tu dois, point d'interrogation, font partie des thèmes que tu peux aborder. Et ce qui amène à mon point 4, pour moi, tout ça est plus compatible que ce qu'on peut croire. Oui, tu peux faire du festif, tu peux faire du rigolo en utilisant des sujets profonds et importants et graves, parce qu'il n'y a pas cette dichotomie qu'on imagine malheureusement trop souvent avec la comédie, qui soit je fais de l'humour engagé, pas vraiment marrant, ou de l'humour très drôle, un peu con. Et je suis convaincu, quand tu vois la génération actuelle, la génération des jeunes qui montent, la génération des humoristes, et quand je dis génération, ça n'a rien à voir avec l'âge, mais ça a à voir avec une espèce de somme de références communes et un style commun qui arrive, je crois qu'on peut totalement arriver à un nouvel âge d'or de la comédie, parce que déjà, la connaissance du stand-up, depuis Netflix, depuis toutes les plateformes, excessivement grande. Avant, si tu voyais des choses, c'est soit tu avais des VHS, soit tu regardais les shows sur TF1 ou France 2. Maintenant, un humoriste qui débute a peut-être vu 100 shows d'artistes de 5 à 10 pays, ce qui est absolument fantastique. Et ces gens-là arrivent en ayant vu tellement de trucs, ils ne sont pas gênés de parler de ce qui les intéresse le plus et à le faire d'une façon soit plus sérieuse, soit plus festive. Et donc, pour moi, en ce moment, dans les 6 premiers mois où ça va rouvrir, il va y avoir une course incroyable à voir les nouvelles formules gagnantes. Et je crois que et le public va être gagnant et les gens qui font du stand-up, si on est le moindrement souple, les humoristes, si on est le moindrement attentif, on va voir des nouvelles techniques qui vont nous permettre d'amener notre art à un endroit où il n'a jamais été. On n'a jamais vu autant d'humoristes en Belgique ou en France être un peu partout. Mais là, on a vraiment l'occasion, je trouve, d'amener ça à un niveau supérieur si on choisit d'être ce qu'on prétend être dans les milliards d'heures de podcasts, c'est-à-dire les observateurs de la vie moderne, des gens qui sont payés pour réfléchir et puis regarder la société, des genres de philosophes comiques. Et donc, je crois qu'on a une opportunité fantastique et c'est ce que je nous souhaite pour 2021 et les années qui vont venir. Si vous voulez voir, aller un peu plus loin là-dessus et commenter, échanger, après avoir publié le podcast, je vais republier le texte qui était la version écrite, donc de la façon, de la vision que j'avais de comment les choses peuvent fonctionner pour l'humour en 2021. Et évidemment, c'est une vision. Et tous les gens qui ont du succès dans l'histoire de l'univers, aucune personne ne s'est servi de ma vision pour réussir. Donc, toutes les autres opinions sont non seulement les bienvenues, mais accueillis. Ça me ferait plaisir d'en discuter avec vous. Et sur ce sujet-là, pour l'instant, j'ai plus rien à dire.